Le gang des essais.
Le gang.
Bim.
La question est que les femmes veulent se prendre en main elles-mêmes.
Je vais montrer justement des femmes noires dans leur pluralité, dans leur complexité.
La plupart d'entre vous le sentent.
Attendez-vous.
Ils savent qu'on ne peut empêcher les avortements en clandestin.
Bonjour à toutes, à tous et aux autres et bienvenue sur Le Gang des Hystéries, émission que vous pouvez écouter en podcast sur le site de Micro Rebelle et tous les troisièmes lundis de chaque mois sur PFM et des rediffusions tout le long de cette même semaine. Pour l'émission d'aujourd'hui, je suis avec Sarah.
Hello, hello.
Et bien sûr, en ce début d'année, nous vous souhaitons les meilleurs vœux pour cette année 2022.
C'est ça, les meilleurs vœux possibles, qu'ils soient bien engagés et bien militants, parce qu'on en aura besoin, je pense, pour cette année.
Et tu me fais une ouverture parfaite, ça va revenir sur le thème qu'on va aborder ce mois-ci. Mais avant tout ça, bien sûr, on fait notre petit agenda.
Mon maman, elle est très débordée. Elle pense qu'à nous et pas à elle.
Bah, tu sais, on pourrait très bien lui proposer une sortie du planning pour les mamans débordées.
Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda.
Donc pour l'agenda de ce mois-ci, nous vous proposons tout d'abord le samedi 22 janvier. Donc c'est... ça sera dans l'après-midi, ce sont les fameux vœux du planning. Donc si vous voulez venir pour créer des petites cartes de vœux pour souhaiter la bonne année de manière féministe, queer, totalement dérangée à nos financeurs, vos amis, votre famille, votre tonton raciste, homophobe et macho, vous pouvez venir, on sera... au planning, donc au 45 rue François Gauthier à Lens, pour cet après-midi convivial de création des cartes et bien sûr dans le respect des gestes barrières.
Est-ce qu'il faut réserver ?
Réserver, on peut toujours envoyer un message, savoir si,
s'il y a de la place.
S'il y a toujours de la place, oui, mais normalement la réservation ne devrait pas y avoir de problème.
Bon, bah alors venez nombreux.
Voilà. Et pour la deuxième date pour ce mois de janvier, c'est un après-midi partage d'outils, toujours au local du planning, de 14h à 17h30. Donc c'est un moment pour jouer avec des nouveaux jeux du planning sur différents thèmes que le planning aborde, par exemple les violences, la santé sexuelle. Et donc ce sont bien sûr... des outils qui peuvent servir lors de stands d'animation ou même pour votre culture personnelle. Et donc n'hésitez pas alors cette fois-ci de contacter bien sûr le planning pour vous inscrire étant donné que là à mon avis il y aura une jauge limitée étant donné qu'on présente quand même des outils. Donc pour les explications et tout ça, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux. Donc n'hésitez pas à contacter le planning. Pour plus d'informations, je rappelle que les contacts sont disponibles sur Internet et les réseaux sociaux.
Bien.
Sarah, on passe à l'agenda, mais cette fois-ci culturel. Tu avais un... C'est un livre, c'est ça, à nous
oui,
parler ?
Oui, alors j'ai profité un peu des fêtes de fin d'année et du repos qui nous était accordé pour lire un livre qui s'appelle « O Simone ». Et donc, bien sûr, Simone de Beauvoir, dont on parle. Peut-être vous avez déjà entendu parler de ce livre, puisqu'il est sorti maintenant il y a un peu plus d'un an. Il est sorti en mai 2020. Il a été écrit par une autrice qui s'appelle Julia Corby, qui est une autrice allemande et qui est assez jeune, puisque elle est née, là aujourd'hui elle doit avoir 32-33 ans, donc c'est
oui, elle est jeune, c'est notre âge.
C'est ça. On ne vieillit pas, on reste frais. Et donc, ça va être son premier essai. Donc, ce livre, c'est une sorte de... C'est une biographie, on peut le dire, de Simone de Beauvoir, qui... transmet, qui en fait illustre, qui présente la vie de Simone de Beauvoir et qu'est-ce qui justement l'a amenée vers le militantisme. Donc je pense que c'est aussi un livre qui peut être, qui est tout à fait en accord avec l'émission d'aujourd'hui, qui s'intéresse du coup à l'engagement, puisque Julia Korbik, elle va s'intéresser à la question de savoir comment Simone de Beauvoir est devenue Simone de Beauvoir telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est vrai que comme elle commence dans son introduction, elle dit que tout le monde connaît Simone de Beauvoir, mais finalement, est-ce qu'on sait ce qu'elle a fait? Est-ce qu'on sait ce qu'elle a écrit? Bah, pas forcément. Pour beaucoup de personnes, ça va être une référence, une valeur incontournable, etc. Mais finalement, est-ce qu'on a tous lu l'œuvre de Simone de Beauvoir? Pas forcément. Moi, j'ai toujours été passionnée par Simone de Beauvoir parce que quand j'avais 18-20 ans, j'ai lu Le Deuxième Sexe et là, ça a été une révélation pour moi. Et je pense que c'est encore un livre qui est tout à fait actuel et c'est pour ça qu'elle a tant marqué. C'est que bien qu'il ait été écrit en 1940, enfin dans les années 40, entre 1940 et 1950, et qu'il n'a pas forcément... Alors, il a été tout de suite très très reconnu, mais par la suite, dans les années 60-70, on a considéré que c'était une œuvre qui était un peu dépassée, alors qu'en fait, c'est un livre, Le Deuxième Sexe, dans lequel elle expose la théorie du genre. Donc, c'est une des premières à l'avoir fait en France. Moi, j'avais trouvé vraiment Le Deuxième Sexe passionnant. Et puis, du coup, j'ai toujours eu une sorte d'attachement pour Simone de Beauvoir. Et puis, du coup, quand j'ai vu que ce livre sur sa vie paraissait, je l'avais acheté. Je ne l'ai pas lu tout de suite, puisque maintenant, on est en janvier 2022 et je l'avais acheté en mai 2020. Bref. Et donc, oui, c'est vraiment un livre tout à fait intéressant parce que c'est vrai que là, on découvre un peu les contradictions de Simone de Beauvoir, pourquoi elle a écrit et comment ça s'est fait. Du coup, ça se divise en plusieurs chapitres qui s'intitulent par exemple « Lutter »,« Aimer »,« Écrire », »,« S'engager » aussi. Donc ces différents chapitres présentent les différentes parties de sa vie et finalement j'ai été un peu, même si je savais que Simone de Beauvoir n'était pas forcément toute blanche, c'est vrai que j'ai été un peu surprise de voir la personne qui nous était décrite. C'est une personne en fait finalement qui était, c'est quelqu'un de très radical et qui a toujours été très passionnée. C'est d'ailleurs pour ça je pense qu'elle est devenue telle qui elle est aujourd'hui, enfin... à l'époque. Mais c'est vrai que en fait, on se rend compte que finalement, si j'avais pu la côtoyer moi en tant que personne, je ne sais pas si j'aurais pu vraiment être proche d'elle, parce que elle avait un côté si radical que ça paraissait être hautain. Elle décrit par exemple comment Simone de Beauvoir a rencontré Sartre, donc sur les bancs de l'université. Et finalement, Simone de Beauvoir, elle ne voulait pas tellement fréquenter les autres personnes de l'université. Elle voulait vraiment rencontrer Sartre, qui lui-même se considérait comme faisant quand même partie d'un petit club élitiste et ne se mélangeait pas aux autres. Et bien, Simone, elle voulait pas faire partie de ce petit club élitiste, quoi. Donc, de ce côté-là, ce n'est pas forcément très reluisant, je trouve, parce que... c'est humainement, je trouve que ça peut poser question. Et ensuite, de l'autre côté, il y a une partie aussi qui décrit ses relations, elle, avec ses étudiantes. Parce qu'on sait que Sartre et Beauvoir avaient finalement une relation libre. Au bout de 10 ans de relation, je crois qu'ils n'avaient même plus de relation intime. Et du coup, l'un et l'autre allaient voir à droite, à gauche. Et Simone de Beauvoir, du coup, du fait de son statut de professeur, a eu beaucoup de liaisons amoureuses avec des étudiantes. On se rend compte qu'elle maltraitait quand même, qu'elle utilisait pour se valoriser finalement. Et c'est quand même fou de savoir ça. Ouais. Surtout à notre époque aujourd'hui, dans laquelle justement on va remettre en question les rapports amoureux dans lesquels on aura telle ou telle personne qui aura un abus de pouvoir quand même sur l'autre, du fait de son statut.
On a déjà parlé en plus, on avait fait l'émission là-dessus sur les relations qu'il peut y avoir de dominance sur les couples.
Ouais, et j'avoue que ça m'a choqué quand même de voir que Simone de Beauvoir aussi était rentrée là-dedans. Alors bien sûr, c'est une autre époque, mais quand même, pour quelqu'un qui se posait sans cesse des questions, qui était toujours dans l'idée d'être... pointu au niveau intellectuel, quoi, de toujours se questionner sur sa position par rapport aux autres, de voir que finalement elle utilisait son côté dominant pour avoir des relations amoureuses avec des étudiantes et qu'en plus elle maltraitait, c'est-à-dire qu'elle se servait d'elle, hein, clairement. Elle donnait ses textes à lire à ses étudiantes pour voir quel effet faisaient ses textes sur elle, et puis ensuite elle passait d'une à une autre. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc moi, de lire ça, ça m'a quand même un peu surprise.
Oui, ça aurait pas été ta meilleure amie si vous avez vécu
non,
à la même époque.
J'avoue que de loin comme ça, je pense que j'aurais pas trop kiffé, quoi. Et bon, voilà, du coup, cette partie-là humaine vraiment prouve vraiment la complexité du personnage, quoi. Et c'est heureusement, donc elle décrit ce côté humain, et ensuite elle va décrire pourquoi elle a écrit Le deuxième sexe et qu'est-ce qui l'a amenée vers l'écriture, puisque finalement Simone de Beauvoir, tout ce qui a compté dans sa vie, c'était l'idée d'écrire. Et écrire, c'est non seulement écrire sur sur ses engagements, mais en fait tout part à la base de sa vie et de ce qu'elle a vécu. Donc son engagement, elle l'a eu parce qu'elle a eu une vie quand même ancrée dans certaines cases qui ont fait qu'elle a voulu s'en libérer. Elle venait de la bourgeoisie, elle n'a pas voulu suivre les traces qui étaient données par ses parents et surtout sa mère qui voulait l'avoir mariée dans un bon mariage, etc. Elle voulait la liberté à tout prix, et donc le mariage pour elle c'était hors de question. Et elle a suivi cette ligne, elle n'en a pas dérogé, et à partir de là c'était constamment un questionnement sur quelle est ma place, où je vais, qu'est-ce que je veux, etc. Donc c'est vraiment un livre très intéressant puisque, bah, par exemple, si jamais, en tout cas, vous ne vous sentez pas de vous plonger dans des lectures un peu plus complexes, même si Le deuxième sexe, ça reste quand même assez abordable, c'est un livre, donc O Simone de Julia Corby, qui est vraiment intéressant, qui vous permettra d'avoir du coup une idée de qui est Simone de Beauvoir, de ce qu'elle a écrit, puisqu'il y a aussi la présentation de ses théories à la fois existentialistes mais aussi féministes. C'est là aussi que j'ai appris que finalement Simone de Beauvoir ne se revendiquait pas féministe au tout début de sa vie, et même pendant très longtemps. Je crois que c'est qu'à partir de ses 60 ans qu'elle s'est rendue compte que son positionnement était féministe, puisque jusque-là elle avait plutôt un côté elle était plutôt du côté militante communiste, hein, voilà, avec l'idée que pour changer le monde, il fallait changer le système mis en place par les puissants. Et en fait, elle s'est rendue compte que c'est pas parce qu'on peut être engagé à gauche que pour autant les questions autour de la femme pouvaient être résolues. Et qu'être féministe, ça transcendait finalement les questions de droite et de gauche, quoi. Donc à partir des années 60, et donc à partir surtout fin des années 60-70, elle a commencé à vraiment s'ancrer du côté du féminisme et des mouvements qui étaient mis en place avec Mai 68. Voilà.
Merci beaucoup, Sarah, pour tout ça.
Avec plaisir.
On se fait une petite pause musicale.
Oui.
Ça te dit? Donc, c'est une proposition de Touga qui nous a proposé aujourd'hui de passer Anna Tirou avec le titre Antipatriarcat, et on se retrouve de suite après.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, a liberar.
nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. A golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Le gang des hystériques.
Le gang.
Bim.
De retour sur Le gang des hystériques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une émission un peu spéciale parce que cette émission est l'émission des 4 ans du gang. Wouh!
Yes!
Cotillon, gâteau d'anniversaire, les 4 bougies et tout ça, voilà.
Voilà, ça pète et ça saute de partout dans le studio.
Les ballons, les cotillons, les ballons lettres avec GDH écrit en gros, 4 ans en tout. Voilà. Donc voilà, 4 ans qu'on essaye de vous divertir comme on peut. Et on s'est dit, ben, ces 4 ans, c'est quand même un petit moment de faire le point un peu sur ben, pourquoi on s'est engagé. Donc le lien avec le livre que tu as proposé, Sarah, d'où vient notre engagement dans le militantisme en général et dans le féminisme, plus en particulier via le planning familial. Pour ma part, donc, en 2017, à peine arrivé dans le Nord, j'étais encore qu'un bébé militant. Mes seules actions étaient de m'amuser aux marches des fiertés et de parler santé sexuelle avec mes élèves de 4e. Parce que c'est bien connu, en tant que PD, on adore défiler à moitié à poil avec une plume dans le cul et de parler des différentes IST chopées avec nos multiples partenaires. Cela, bien sûr, est ironique. Mais ce jour-là, nous préparions des pancartes pour la Pride d'Arras avec des slogans tels que « Enculé est une insulte pour ceux qui n'ont jamais essayé ». Et on me proposa de venir voir comment fonctionne une asso comme le planning familial. Et pour cela, je remercie Silver, hein, qui est un des participants qui avait pas mal participé au début de l'émission du Gang des Hystéries. 3 mois plus tard, j'assistais à mon premier conseil d'administration. Après 3 longues heures de finances, de fonctionnement et de décisions en tout genre, je repartais fatigué mais repu de toute cette énergie. 6 mois plus tard, j'intégrais le CA. Entre-temps, j'ai commencé à bosser sur des questions qui me tenaient à cœur, autant face au public pendant des stands ou des animations qu'en interne au sein de l'association. Par exemple, le sexisme chez les jeunes ou les questions LGBT. Je découvrais ce qu'est le militantisme. Ce n'est pas seulement tenir des pancartes pendant les manifs et coller des tracts partout. C'est aussi gérer une asso, des salariés et des bénévoles, s'occuper des finances, mettre en place des actions avec des partenaires, pas toujours coopératifs, participer à des réunions locales, régionales, nationales, animer des stands ou des formations. Ça m'a quand même aidé plus d'une fois parce que, je vous l'avais déjà dit, je m'occupe pour éviter l'anxiété. Et surtout, j'ai découvert un terme qui a changé ma vie. Alors non, ce n'est pas l'écriture inclusive, surtout qu'en tant que prof, mon ministre de tutelle n'aime pas trop ça. C'est le terme d'intersectionnalité. On m'a appris que le féminisme, ce n'était pas que les droits des femmes, mais toutes les luttes atteignant des minorités. Racisme, LGBT-phobie, discrimination, violence, et j'en passe. Je peux dire aujourd'hui que grâce au planning, je suis un PD féministe.
Waouh, c'est beau tout ça. Et pour le coup, c'est vrai que Bah moi, je suis impressionnée de te voir, pour avoir été aussi au CA du côté du planning familial, les heures passées à étudier les budgets, faire des plannings de finances, etc. C'est impressionnant et c'est vrai que pour le coup, là, l'engagement, on peut dire qu'il est bien concret, quoi. Des heures passées sur les ordinateurs à calculer, quoi.
Oui, pour le coup, en tant que bénévole, mais bénévole actif, on ne compte pas nos heures. Hein, quand on est impliqué autant dans un bureau ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça peut prendre pas mal de temps. Tu as pu le voir avec la fonction employeur, par exemple.
Oui.
c'est rien, mais quand une salariée demande quelque chose, on peut passer plusieurs heures dessus pour pouvoir lui donner une petite réponse. Donc effectivement, c'est... Certes, il y a le côté militant en mode on revendique des droits, etc. Pour divers groupes de personnes, mais il y a aussi tout le côté, ben, si on fait partie d'une asso, il faut que l'asso puisse continuer à tourner aussi. Mm. Donc c'est ça aussi que j'ai découvert en m'engageant.
Oui, que là-dedans. Tu présentes bien d'ailleurs dans ton texte, parce que c'est vrai qu'on va parler d'engagement, de militantisme, mais finalement, on n'arrive pas à s'imaginer concrètement ce que ça peut être. On peut se dire, je suis touchée par telle et telle idée, je suis révoltée par telle et telle chose, mais finalement, qu'est-ce qu'on va faire pour changer les choses ? Et c'est vrai qu'une association comme le planning familial, c'est génial qu'elle existe, parce qu'elle peut permettre à des gens de se rencontrer et de mener des actions communes, quoi. Donc... pour le coup, merci, je pense. merci aussi aux salariés d'être aussi présentes. Et c'est vrai que le planning familial de Lens, en tout cas, véhicule quand même l'idée d'une association dans laquelle on a tous notre mot à dire pour faire grandir et avancer la cause, quoi.
Exactement. Mmh. J'ai bien résumé tout ça. Et qu'en est-il pour toi, Sarah ?
Alors, moi, je ne suis pas aussi concrète dans ce que j'ai pu réfléchir. Alors, la question de l'engagement, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'était la thématique de cette émission d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est encore une question que je peux me poser. De mon côté, l'engagement, pour moi, ça arrive déjà par des questions au sein de ma famille. En tant qu'adolescente, il faut trouver sa place. Du coup, on commence un peu à réfléchir, à se questionner sur qu'est-ce qu'on veut plus tard, quel est l'endroit où on veut aller, etc. Et finalement aussi peut-être des souffrances, hein, quand même, parce que je pense qu'on a tous notre parcours individuel qui fait que la vie, elle n'est pas forcément toujours très simple, et dans le cadre familial, pas forcément non plus. Et en tout cas, pour moi, comme je le disais d'ailleurs en parlant du livre « O Simone » de Julia Korbic, c'est à travers quand même le livre « Le deuxième sexe », je dois l'avouer, que tout d'un coup, je me suis rendu compte que du sens pouvait apparaître à travers la lecture de textes, et que les questions personnelles et individuelles pouvaient rejoindre des questionnements collectifs, et que donc, à travers le collectif, on pouvait aussi peut-être aussi se transcender et arriver à résoudre ces problèmes personnels, il faut le dire. Je pense que quand on va rencontrer d'autres personnes qui partagent nos problèmes, quelles qu'elles soient, enfin moi, pour le coup, là, du coup, pourquoi le planning familial, ça a été vraiment ma position en tant que femme dans la société, les révoltes que j'avais pu avoir en tant que même adolescente ou enfant, en tant que fille de, ou alors en tant que sœur. Et donc, du coup, à partir de là, j'ai lu, je me suis questionnée, j'ai rencontré des gens et donc j'ai essayé de trouver des réponses. Et c'est comme ça aussi que je suis arrivée au planning familial, quoi. Voilà, pour moi, en tout cas, de mon côté, ce que je peux dire sur l'engagement.
Oui, ça ressort du vécu, en fait.
Oui.
C'est comment on voit et on vit la société et notre entourage, comment il nous fait grandir, qu'on peut décider de notre engagement militant là-dedans, quoi.
Oui, et puis c'est vrai que, pour revenir encore une fois, vraiment, ce livre tombe à point nommé sur Simone de Beauvoir. Bah, Simone de Beauvoir, c'est totalement ça. C'est qu'à travers son histoire personnelle en tant que fille et fille issue de la bourgeoisie et d'une famille dans laquelle il fallait avoir un mari, être établi pour représenter et ensuite être bien intégrée à sa place, à la place qui lui était donnée. Elle, c'est vraiment du vécu et elle s'est révoltée contre ça à la base. Elle réclamait sa liberté à tout prix. Sa liberté, ça passait par le refus du mariage, la revendication aussi d'une place égale à celle des hommes. Elle s'est associée à Sartre, parce que là, on peut vraiment parler d'une association, puisque au-delà même d'une relation intime, au final, c'est deux penseurs qui se sont accordés toute leur vie pour réfléchir sur la question, sur les questions humaines. Sartre et Beauvoir ont mis à jour cette théorie philosophique qui est l'existentialisme et qui part de l'idée que, qui se questionne sur c'est quoi être libre en tant qu'être humain. Donc à partir de là, c'est quel est d'où je viens et où je vais, quoi. Voilà.
Super, merci beaucoup. On vous laisse avec certaines personnes que vous avez déjà entendues au Gang des Hystéries. Raconter leurs histoires sur leurs différents engagements et puis on se retrouve de suite après.
Vous êtes bien au 6262. Le gang est en train de préparer votre émission préférée. Laissez un message et le gang vous écoutera.
Comme beaucoup de meufs de ma génération, les ados du 1990, je suis entrée dans le féminisme tardivement. Ma déferlante, ça a été MeToo en 2017. Je me souviens que ça m'a fait, quand je l'ai écrit sur Twitter, mon hashtag, ma reconnaissance. Ce que ça m'a fait quand j'ai lu les témoignages entre effarement et colère, et comme ça a fait gronder quelque chose en moi, un peu comme l'eau sous la terre avant le jaillissement d'un geyser. À la même époque, j'ai découvert les podcasts féministes, et en particulier celui de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi sur Arte Radio. J'ai entendu des femmes témoigner, réfléchir, faire des liens. J'ai pleuré avec elle, j'ai vibré avec elle, je me suis sentie accompagnée. Et puis, il y a eu des rencontres, des militants et militantes du planning familial de Lens, dont j'ai découvert l'incroyable diversité des actions. Et en participant à la journée du 25 novembre 2019, contre la journée de la lutte contre les violences faites aux femmes, j'ai appris qu'il existait un cycle des violences. J'ai appris comment fonctionnait l'emprise. J'ai appris que conflit et violence sont deux choses bien distinctes. Alors j'ai commencé à faire une lecture de ma vie avec les fameuses lunettes du féminisme. Vous savez, celles qu'on ne peut plus enlever une fois qu'on les a posées sur le nez. Et je confirme. Et la lecture est édifiante. Et puis j'ai commencé à lever les yeux de mon nombril et regarder autour de moi. Et là, c'est carrément vertigineux. Tout est upside down, comme dans Stranger Things. Mais les monstres en moi. Parce que ce ne sont pas les monstres qui violent, ce sont les hommes. Et je me rends compte que ces hommes, j'ai été programmée non seulement à les aimer, mais aussi à les lire, voir leurs films, écouter leurs chansons, leurs philos, leurs sociaux, leurs cours d'histoire, écouter religieusement les militants d'extrême gauche qui baissent comme des mecs de droite, pour citer Ovidie, et partout, tout le temps, les entendre asséner fort leurs paroles d'experts, de sachants, les voir occuper l'espace façon étoile de mer, depuis la cour de récré jusque dans les transports en commun. Puis est venu le moment de passer à l'action, petit à petit, d'oser le faire. Eh bien, ça occupe beaucoup de temps, le féminisme. C'est par exemple, dans les repas de famille, faire lever les mecs de table quand c'est le moment de bosser, malgré les railleries. C'est ne plus laisser passer les blagues sexistes, les blagues sur les grosses, les blagues sur la pédocriminalité. Si, je vous assure, ça existe encore. C'est ne plus laisser passer non plus quand les potes commentent l'apparence des femmes ou prennent un air gourmand en voyant une jeune femme de 18 ans. Mec, t'as 45 ans, tu vois rien qui déconne, là. Donc, c'est pas de tout repos, mais c'est salutaire. Parce que tout ça, toutes ces petites choses, je mets des guillemets à petites, ça te grignote l'intérieur. Alors, quand c'est possible, quand je peux, je parle ou j'agis. C'est pas toujours confortable et parfois j'ai pas le courage et c'est pas grave. Mais quand j'y arrive, je suis contente. Et surtout, je me dis que je le fais pas que pour moi. En entrant dans le féminisme, j'ai découvert aussi comme c'était bien d'être entre femmes, d'être dans des groupes de femmes. Parce que bien évidemment, j'ai longtemps cru que les femmes entre elles, ça faisait de la merde et ça se tirait dans les pattes, c'est jalouse. Non, mais faire l'expérience de n'être qu'avec des femmes de temps en temps, c'est nourrissant, c'est reposant. Ça ne veut pas dire que dans les groupes de femmes, il n'y a jamais de girl boss, de problèmes de pouvoir ni de manipulation, non. Mais globalement, j'y trouve des relations plus égalitaires. Et puis, c'est du collectif. Ça fait avancer. On n'est pas seul dans son coin. Enfin, entrer dans le féminisme, c'est choisir son camp et le revendiquer. Lire des autrices, écouter des compositrices, voir des films réalisés par des femmes, passer plus de temps à écouter les copines, les croire, elles, quand ça déconne dans un couple d'amis hétéros, être de leur côté. Et répondre à ceux qui me demandent si je ne suis pas en train de privilégier une partie de la population par rapport à une autre. Absolument, t'as tout compris.
Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle.
C'est l'année de mes 25 ans que je me suis identifiée comme féministe. Je venais de vivre quelques mois à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et j'y avais rencontré de chouettes personnes, se réunissant en non-mixité, défiant la binarité de genre et luttant tant bien que mal contre le sexisme. Ça faisait déjà quelques années que j'étais engagée politiquement dans des groupes militants, me revendiquant antisexiste et antiraciste entre autres. Mais le terme « féministe » était alors, à mon sens, pour les personnes qui militaient contre les discriminations sexistes, qui en faisaient un réel combat. Et je ne me reconnaissais pas à l'époque dans cette définition. C'est donc à la ZAD que j'ai expérimenté l'importance de se retrouver en non-mixité pour échanger, lutter ou construire une cabane. Si, je vous assure, ça change tout. Ça a été comme une évidence, être féministe, pas le choix. Mais de quel féminisme je parle ? J'ai de la chance, j'ai tout de suite été bien entourée. Des femmes, des queers, des trans et non-binaires qui m'ont enseigné le concept d'essentialisme à bannir. Ce qui m'a plu, l'analyse intersectionnelle et inclusive, associant radicalité, exigence et douceur, avec de très belles amitiés à la clé. C'est à la même période que je suis devenue végétarien, alors... Même si aujourd'hui, malheureusement, je remange de la viande, je sais que féministe, par contre, je le resterai pour la vie.
Vous êtes toujours à l'écoute du Gang des Hystéries sur Micro Rebelle.
Mon engagement féministe. À y repenser, la première image qui me vient, c'est celle de ma mère. Plantée sur ses pieds, genoux pliés, bassin en avant, bras légèrement pliés comme une boxeuse, les poings fermés dans un geste revendicatif, me lançant sur la voix du « MLF !» Qu'est-ce qu'on a pu l'entendre, cette injonction, ma sœur et moi ?« Allez les filles, MLF !» pour le mouvement de libération des femmes. Et puis finalement, elle s'en retournait vite, préparer l'assiette de mon père, toujours absent du dîner familial pour cause d'engagement politique. Mais ça, je ne le compris que plus tard, quand j'eus moi-même démarré mon engagement politique et féministe. D'où me vient-il alors ? Du plus loin que je me souvienne, je me suis sentie en faux par rapport aux copains-copines qui me semblaient reproduire des comportements que je jugeais soit injustes, soit inintéressants. Je ne comprenais pas l'intérêt de celles qui partageaient mon genre et mon sexe pour les poupées, Barbie et autres futilités de mon propre ressenti. J'optais pour des compromis. Ni Barbie, ni voiture, j'étais de la team Mon Petit Poney. Et je passais le plus clair de mon temps dans la nature avec mon chien, jumelle à l'épaule, perdu dans mes pensées. Je me plaisais à faire les litières des lapins, des chevaux, soigner petits bobos réels ou imposés à des bestioles, soit terrorisées, soit indolentes à mon harcèlement. J'apprenais grâce à mon père tous les rudiments des sciences naturelles, du dépiautage de lapins, pigeons, poulets, voire même la découpe des agneaux et la réalisation de pâtés, enchaînant bout de gras, par intermittence. Plus tard, j'exécrais les intérêts de mes congénères pour la séduction et la conjugalité. Je me tournais vers la mécanique, le grisement de la vitesse en voiture qui m'a amené droit dans un champ, presque à l'envers. Le grisement de l'attitude viriliste sur ma moto sport qui m'a amené, elle, droit à l'hôpital. Bref, je me construisais contre mon genre et j'entretenais cette absence de sororité en dénigrant tout ce qui représentait le féminin. Pourquoi ? D'où ça me venait ? Je ne le compris que lorsque j'entamais mon engagement politique féministe au planning familial. Un exercice de présentation proposé en animation nous demandait de nous questionner sur le choix de prénom qu'avaient fait nos parents. Je comprenais alors, à relire l'histoire familiale, mon histoire, avec un tout autre point de vue. En effet, il s'avère que je suis le deuxième enfant et que mes parents savaient qu'ils n'en auraient pas d'autres et que mon aînée était une fille. Je portais alors déjà toutes les espérances de mon père et sûrement bien d'autres dans la famille. Espoir douché à la maternité. C'est une fille ! Aucun prénom féminin n'était réellement prévu. Ma mère y avait bien pensé, mais mon père s'y était refusé. Ne voyant pas d'accord venir, ma grand-mère serait intervenue en proposant Lily, comme Lily des Bellons, petit héros de Marcel Pagnol. Désintérêt de mon père, ravissement de ma mère. Cela flattait son snobisme transfuge de classe en lui rappelant Lily of the Valley, nom anglais du muguet qu'elle a confondu avec la fleur de lys, mais qui lui rappelait toute la classe de la royauté anglaise. Je comprenais alors d'où me venaient toutes ces appétences pour les activités dites masculines. Mon père s'étant résigné à nous élever comme des garçons, toute proportion gardée, car en bon transfuge de classe, lui aussi, il restait loin des habitudes chasse-foot-bistrot imposées à son genre et son milieu d'origine. Il se tournait vers culture, savoir, écologie, avec un brin de beaufisme tout de même dans sa passion mécanique, voiture et moto qu'il nous a transmise pour un temps. Je faisais ainsi mon petit bonhomme de chemin comme tout un mouvement féministe. La libération venait de notre capacité à faire comme les hommes. Et celles qui restaient au foyer ou dans des tâches domestiques ou dites féminines, c'est qu'elles le voulaient bien. Puis, j'entrais un jour sur un malentendu dans un camp d'infortune, comme de ceux qui poussent le long de nos autoroutes au gré des politiques répressives en matière de contrôles aux frontières et d'immigration. Et comme à l'accoutumée, je m'entendais et m'intéressais plus aux représentants masculins de ces nouveaux aventuriers modernes. Ce sont pourtant leurs camarades féminines de misère qui ont su déceler que mon rôle pourrait être différent, ou devait être différent. Elles qui ont su pousser les hommes les plus compréhensifs à tirer ma manche pour m'attirer vers leurs conditions. Je me retrouvais alors rapidement dans les méandres de la misogynie hospitalière et de la xénophobie systémique, en cherchant un accès ici à l'avortement, là au dépistage des infections sexuellement transmissibles. Je ravalais très vite ma fierté de colon blanche, toute prête à montrer comme notre système était pensé pour nous, les femmes européennes qui étions libérées. Point d'avortement facilement accessible, point de bienveillance dans l'accueil des personnes étrangères. Et pendant que je m'offusquais du traitement qui leur était fait, je ne pouvais plus ne pas voir ces jeunes filles, jeunes femmes, femmes, maltraitées par des obstétriciens remplaçant Dieu dans leur royaume, ou des personnels soignants emplis de mépris de classe à l'encontre de filles issues des corons jugées incapables de maîtriser leur fécondité, et qu'il fallait donc punir. Ce ne pouvait être qu'une erreur. Je saisissais alors toute ma naïveté. Après l'offuscation, la révolte, j'entrais en formation de conseil conjugal et familial au planning familial de Lille pour me rendre utile. Et là, sur le même malentendu, je plongeais dans la déconstruction de mon genre et dans l'éducation du regard que je portais sur ma société. Je m'engageais. Je m'engageais pour moi, pour mes sœurs exilées, pour mes sœurs locales, et j'arrivais à l'intersection des oppressions que nous partagions. Quant au gang, eh bien, c'est au sein du gang que j'ai pu déconstruire l'idée d'un féminisme qui imagine les femmes comme rattrapant les hommes. C'est au sein du gang que, voilà, maintenant j'ai pu, grâce aux échanges qui ont eu lieu lors des émissions, engager un féminisme qui valorise les savoirs dits féminins et qui déconstruit l'idée du virilisme comme une valeur à suivre. C'est bien au sein du gang que j'ai pu apporter une figure de la culture populaire qui est Ripley dans Alien, qui était ma figure de mon féminisme, de la meuf badass que j'espérais un jour atteindre, et que j'ai pu confronter cette idée-là, avec cette image-là, avec celle de Silver, et dans un film, donc il me semble, La Revanche d'une Blonde. Et c'est en ça que le gang m'a énormément apporté, dans la valorisation des savoirs et des manières de faire dites féminines. Je dis bien dites, évidemment, entre guillemets. Vive le gang et joyeux anniversaire le gang.
C'est beau le blabla, mais place à la musique.
Ooh. small.
And they love it.
Yes, I do. The way you rock, non-stop. Girl, you got the chops. Flip-flop, she bops, self-top. Your licks are hot. Her lyrics heave, kids receive. Crawling up the sleeve. Parents peeve, can't conceive that her deed will never leave.
And we love it.
Merci beaucoup à toutes les participantes de nous avoir fourni leur retour sur leur engagement en tout cas. Et je voulais également profiter pour remercier toutes les personnes qui ont pu participer à l'émission. Alors tout d'abord, remercier Loïse, Silver et Florence qui sont à l'origine du projet et qui ont animé les premières émissions. Je voudrais également remercier celles et ceux qui ont pu participer on va dire de manière plus ou moins régulière. Donc ma chère Sarah qui est là avec moi aujourd'hui. Il y a aussi Lily que vous avez pu entendre, Aline, Ambre, Céline, Marin, Olivia. On remercie également Luc, Touga et Roxane de Micro Rebelle pour nous inviter, pour nous proposer leur matériel à chaque fois pour qu'on puisse enregistrer l'émission. Sinon, vous ne nous entendrez pas à l'heure actuelle. On serait un peu... Ça sera un peu compliqué pour faire l'émission. Et les invités qu'on a pu avoir, donc je pense notamment à Dominique et Nadine, qui sont deux bénévoles du planning familial, qui ont pu venir discuter de certains points avec nous. On a eu 13e mois que Sarah nous a présenté, donc le groupe Lillois qui parle de textes engagés féministes. On a eu aussi, pour les vœux d'une année, les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence avec Sœur Pupus du Pubis et Sœur Simona Caldebavoir qui étaient venues. On avait bien rigolé à ce moment-là, qui était très drôle. Et je m'excuse si j'en oublie quelques-uns, mais en tout cas, merci à vous tous et toutes et aux autres de participer à cette émission et de continuer à la faire vivre.
C'est beau tout ça. Et c'est comme ça qu'on fait société aussi, tous ensemble.
Cœur avec les mains.
Oui. Donc oui, nouvelle année, donc 2022 s'annonce et avec nos vœux arrive également l'actualité politique, n'est-ce pas ? Puisque vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques mois, les élections présidentielles vont arriver sur le tapis, enfin quoi que, elles sont déjà là en fait.
Elles sont déjà là et vu l'actualité, c'est un petit peu compliqué en fait.
Ouais, c'est compliqué mais on va se tenir chaud je pense, on va faire ça, on va regarder ça ensemble. Déjà, on peut voir effectivement que sur les plateaux télévisés, enfin bref, j'ai même pas envie de revenir là-dessus, ça sent pas très bon quoi, mais bon. Bref, moi je voulais parler avant tout justement de la question féministe dans les débats qui allaient venir, surtout du côté de Monsieur Macron, notre actuel président, qui semble vouloir à nouveau relancer le débat sur le tapis, puisque il y a à l'époque. Quand il avait proposé sa candidature, il voulait faire de la cause des femmes, faire sa thématique là-dessus, quinquennale.
Le cœur du quinquennat.
Voilà, merci, parce que je ne retrouvais plus sa phrase. Mais donc, en fait, il a envie de recommencer, je crois. Même si, finalement, les dernières années n'ont peut-être pas été très concluantes.
Ah bon ?
Mais il aime bien parler, quoi. Je pense que ce sujet, il sent qu'il y a quelque chose derrière et donc il veut y aller.
Alors,
et
il notamment, revient sur quoi là-dessus, cette
fois-ci ? Il envoie Marlène Schiappa sur les plateaux télévisés pour porter l'étendard. Cette chère Marlène Schiappa. Alors, Marlène Schiappa, que j'ai vue du coup par hasard dans une émission qui était proposée, je crois bien, sur France 2 ou sur France 5, je ne sais plus exactement. En tout cas, une émission malgré tout intéressante qui parlait des violences faites aux femmes, puisque sur le plateau, on avait différents acteurs, des militants, des gens investis dans les associations. Et on avait également donc Marlène Schiappa et une capitaine de police qui était invitée également pour réagir sur la formation de la police par rapport à ça. Donc Marlène Schiappa, elle était là, elle était bien satisfaite de son travail et tout de suite ça m'a posé question parce que Marlène Schiappa, oui j'en ai entendu dans les réseaux, enfin j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, toutes ces sorties un peu ridicules, qui montrent à quel point elle a aucune conscience de rien. Enfin bref, du coup je me suis posé question, pourquoi elle est là Marlène Schiappa ? Et là je me suis dit, il y a un truc quand même. Et là dernièrement, donc pas plus tard que ce matin, je vois une autre nouvelle puisque Emmanuel Macron veut faire de l'endométriose un sujet sur le tapis également, puisque ce matin, je l'ai entendu, j'ai lu qu'il disait que ce n'était pas normal que des centaines et des milliers de femmes vivent leur endométriose dans le silence et subissent cette maladie. Donc, il veut faire quelque chose. Alors, on ne sait pas quoi exactement, on ne sait pas non plus quels seront les moyens mis pour la question, mais en tout cas, on sent que, voilà, à travers le fait que Marlène Schiappa était sur le plateau télévisé pour parler des femmes battues plus et qui, pour le coup, meurent sous les coups de leur conjoint, et à nouveau cette sortie-là sur l'endométriose, je me suis dit, bah dis donc, on va repartir pour un tour sur la question, selon Macron...
Je pense qu'elle était là sur ce qu'elle a pu faire quand elle était secrétaire d'État chargée
aux violences faites aux femmes,
je pense.
Oui.
Mais bon, on a vu ce que ça a donné, étant donné que en date du 8 janvier 2022, nous sommes déjà à 4 féminicides. Donc, c'est pas beaucoup pour les 8 premiers... Enfin, c'est énorme, je veux dire, pour les 8 premiers jours de l'année, en sachant que les deux premiers sont parvenus dès le 1er janvier 2022. Donc, on est encore loin de finir avec la cause, enfin, avec les violences faites aux femmes. Pour revenir sur l'endométriose, c'est bien beau tout ça, mais il n'y a pas que ça. On a de plus en plus de femmes qui parlent de leurs soucis de santé. En général, je pense par exemple au syndrome des ovaires polykystiques également, qui peut causer pas mal de dégâts au niveau de l'appareil reproducteur. Oui, on sent bien, comme tu disais, que la campagne électorale est lancée et qu'il faut récupérer des voix au maximum. Donc, on verra bien comment cela se passe et comment cela se produit.
Ouais. En tout cas, sur le plateau où Marlène Schiappa intervenait, c'était quand même bien de voir à la fois les acteurs qui étaient sur le terrain et le décalage quand même qui existe du côté de la présidentielle, quoi, parce que c'est vrai que du coup, en fait, on nous présentait sur les 4 ou 5 dernières années le nombre de femmes tuées sous les coups de leurs conjoints. Et c'est vrai que même s'il y a eu une ou deux années, par exemple, je crois que l'année dernière était une année dans laquelle il y avait quand même moins de personnes, de femmes tuées, le taux reste quand même au-delà des 100 tuées. Je crois que cette année, on en avait 122. Enfin, pour 2021, ou autour de 120.
J'ai plus, mais en tout cas, ouais, ça fait...
Et les années précédentes, c'était autour de 140, 150, etc. Et c'est pas un taux qui diminue de façon significative, quoi.
Juste pour comparaison, on a à peu près 50 en 52 semaines dans l'année. Donc ça veut dire qu'il y en a 2 à 3 par semaine de féminicides en une année, ce qui est énorme.
Donc, où est leur politique de prise en charge vraiment de la question ? On ne sait pas trop. En tout cas, j'ai vu que parallèlement à ça, c'est en Espagne, apparemment, l'Espagne serait pour le coup beaucoup plus efficace sur cette question-là. Donc, alors je ne pourrais pas citer exactement ce qui est mis en place là-bas, mais en tout cas, il y a par exemple des postes de police qui sont dédiés qu'à ça, ou dans lesquels les femmes vont rencontrer des policiers qui sont formés et qui peuvent recevoir les plaintes, et qui, comparé à la France, où du coup, les femmes n'osent même pas aller dans les bureaux de police pour se plaindre parce que on va pas les écouter. Là-bas, en tout cas en Espagne, c'est pas le cas. Là, il y a vraiment une écoute qui est faite et une écoute active ou dans laquelle on va réagir face aux crimes qui sont commis, quoi.
Espérant que ça s'améliore en France pour que les femmes. Après, on parle des femmes, mais c'est pareil pour des violences sur personnes LGBT aussi.
Oui,
hein.
Oui.
Parfois, c'est vous l'avez bien cherché, et puis voilà, quoi. C'est la phrase qui peut ressortir quand on veut déposer plainte.
Mais bon. Non, mais le travail est immense. Donc ouais. Voilà, 2022, on est toujours là.
L'année du mieux.
Ouais, oui, on va essayer. Mais en tout cas, nous, on est présents et on va continuer à porter la lutte.
Voilà, donc on sera là le mois prochain et pendant toute l'année, comme ça, on vous aidera à tenir pendant ces durs mois, en tout cas de ce premier semestre de l'année 2022. On verra comment ça se passe. On vous remercie de nous avoir écoutés. C'est déjà la fin de notre émission. Je vous renouvelle mes vœux pour cette année.
De même.
Et je vous dis au mois prochain. Et on se quitte avec Kawin et Terre Révolte. Des bisous.
Vegan, rouler vélo, polluer vert, consommer bio, carbone zéro, produits locaux, paille recyclable pour les bobos, je laisse pas de poulet, un filet d'eau, je m'illumine toujours basse conso, je fais déjà tout bien comme il faut, mais il fait de plus en plus chaud. Hey eux qui tuent lentement la planète, qui créent les besoins que l'on jette, ceux qui polluent pour des euros, puis s'habillent de verre en héros. Tandis qu'on nous culpabilise, c'est nos ressources qu'ils épuisent. Il faut qu'on responsabilise les vrais coupables de cette crise. Hey qui sème le désert récolte la colère, on est mobilisé, créatif et révolté. Désert, récolte, colère, on est mobilisé, créatif et révolté. Qui sème le désert, récolte la colère, on est mobilisé, créatif et révolté. Qui sème désert, récolte, colère, on est mobilisé, créatif et révolté. La terre rugit, la terre gémit, monde régi par l'industrie, on la piétine, terre à crédit, une terre en vie, ça n'a pas de prix, la terre croupit, terre décrépit, ils font cramer l'Amazonie, ils troquent notre air pour leur profit, leurs crimes ne seront plus impunis. Le vrai pouvoir est là où il y a le fric, ils remontent des cathédrales en un clic. mais dès qu'on cause transition énergétique, là, c'est la crise économique. Grève, la consommation frénétique, boycott total des multinationales. Y a pas de changement écologique sans une révolution sociale. Sème le désert, récolte la colère. On est mobilisé, créatif et révolté. Désert, récolte, colère, on est mobilisé, créative et révolté. Qui sème le désert, récolte la colère, on est mobilisé, créatif et révolté. Qui sème désert, récolte, colère, on est mobilisé, créative et révolté. La terre séquelle ne tiendra pas encore longtemps. Si c'était son dernier printemps, que ferait-il de leur argent? Ce soir on construit l'avenir, déterminé à s'en sortir, à mettre fin à leur empire. C'est maintenant qu'il faut réagir. Les hauts dirigeants, les lobbies du gouvernement qui se croient toute puissance, font la loi à leur convenance. Mais nous avons les champs pour cultiver la décroissance. Nous avons la désobéissance, car on n'achète pas la colère des gens. Qui sème le désert, récolte la colère. On est mobilisé, créatif et révolté. Qui sème désert, récolte colère. On est mobilisé, créatif et révolté. Sème le désert, récolte la colère, on est mobilisé, créatif et révolté. Qui sème désert, récolte colère, on est mobilisé, créatif et révolté. Hey, 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 hey.
Le gang des histoires.
Le gang.
Bing.